Perfect.
C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Kylian Mbappé,
bonjour à tous.
Mohamed Zahoui.
Daniel
Mora.
Bravo Daniel.
Bonjour. Et donc deux voyous, Romain Lévy et Kamala. L'auteur du film et le réalisateur, Romain Lévy, co-auteur, vous êtes plusieurs à avoir signé.
On est quatre.
Quatre à avoir signé. Soyez le bienvenu, en tout cas. Merci. Et Kev Adams, c'est pas la première fois que vous venez dans cette émission. Merci d'y revenir. Ça prouve que ça s'était pas trop mal passé, quoi.
Je vais pas vous mentir. À chaque fois que je vais à France Inter, j'ai l'impression d'avoir resquillé quelque chose, quoi, tu vois. Donc, je suis très heureux d'être ici.
Très bien. Bienvenue, en tout cas. Le film sort ce 29 mars. Est-ce que vous avez bien compris, Maréchal, pourquoi Kev Adams et Romain Lévy sont nos invités?
Affirmatif, Nagui. Je vais vous dire pourquoi nous recevons Romain Lévy et Kev Adams.
Non, Kev Adams.
En français, on prononce toutes les lettres. On est chez nous. Vous le savez. Je suis étonné cependant que vous me posiez la question du pourquoi de la venue de ce duo zygomatique, puisque juste avant cette émission, vous m'avez dit, je vous cite, deux points et j'ouvre mes guillemets, déjà que j'ai horreur des calembours, alors un titre comme Gangsterdam, c'est le genre de truc qui me fait vraiment pas marrer. Mais comme je me suis engagé auprès de notre directrice Laurence Bloch d'aider à faire baisser l'âge moyen des auditeurs France Inter
et du boulot
de 78 à 75 ans, la présence de Kev Adams et de Romain Lévy, qui attire un public très jeune, va dans le bon sens. Je dirais donc, et c'est toujours vous qui parliez, Nagui, je dirais donc que Gangsterdam, c'est une pure vanne et que depuis Singapour, agonie en Patagonie, coup de boule à Istanbul, gonocoque à Bangkok, les OSS 117 que je relis tout le temps, je lis que ça, j'avais... jamais vu de titre aussi marrant que Gangsterdam. Ceci dit, Maréchal, je compte sur vous pour le pitch qui me permettra de me lancer dans l'interview. Alors, le pitch, il est simple.
Le pitch.
Oui, je sais, c'est difficile.
Ça ne veut pitch.
Mon appareil dentaire. Alors, je vous donne le pitch.
Allez-y, pichez.
Oui, pichez.
Trois personnes se rendent à Amsterdam. Voilà.
C'est dans
trois individus.
C'est tout.
C'est un rapport de police.
C'est dans un premier temps, cette histoire pleine de suspense et de drogue m'a distrait des petites misères du quotidien que vous connaissez. Elle m'a hélas ramené 63 ans en arrière à une époque où moi aussi j'ai été confronté aux affres de la drogue. C'était en 1954. Tonkin. Après deux ans de captivité dans le camp de Gang Bang Phoc, j'avais réussi à m'évader à travers la jungle, non sans avoir raflé à l'infirmerie toute la morphine et fait ma basse sur les boulettes d'opium dans la fumerie de mon tortionnaire, le cruel général Suziwan. Au cas où je serais repris, j'avais décidé de cacher toute cette cam dans un bambou glissé, pardon d'être cru, dans mon couloir à lentilles. La cachette idéale. Avec de la graisse à canon, j'avais réussi à tout caser. Nous échappâmes au Viet, mais Haiphong, en embarquant sur le Costa Concordiang, soudain, une douleur atroce. La chaleur tropicale, en desséchant le bambou, l'avait fait éclater en mille éclats qui me mutilèrent le croupion et l'as de trèfle, tout en libérant la chenouf. Je frisais l'overdose, mais anesthésié par l'opium, je survécus. Et survivre est le mot qui convient, car depuis ce jour fatal, vous le savez, respectez ma différence.
Oui, allez-y, Maréchal.
Vous le savez, je ne peux pas rester assis plus de 3 minutes.
Bah, il faut y aller.
Aussi dois-je vous quitter.
Voilà, super.
Et je vous souhaite une bonne émission.
Bonne nouvelle. Merci, Maréchal.
Merci, Maréchal. La bande originale, Nagui. Sur France Inter.
Donc c'est en effet l'histoire de trois individus, plus précisément Ruben, Durex et Nora. Nora, c'est la belle étudiante qui débarque dans un amphi lorsque vous redoublez votre...
Master 2 de droit.
T'as bien noté le niveau, hein. Master 2 de droit, exactement.
Exactement.
Et vous êtes subjugué par cette fille.
Je tombe amoureux d'elle au premier regard.
Ouais,
c'est ça parce que
ça fait partie de ces filles qui arrivent au ralenti.
Ouais.
C'est des filles qui arrivent avec cheveux au vent, elles sont ralenties, donc elles sont forcément belles, les filles au ralenti.
Exactement. Bah ouais, bah c'est vrai, il y a peu de filles qui arrivent au ralenti, mais celles qui arrivent au ralenti, t'es sûr qu'elles sont belles.
Et le problème, c'est que comment intéresser, séduire ou faire plaisir à cette fille, sortir de la friend zone, comme vous dites, c'est-à-dire que vous lui rendez service dans les révisions de cours,
ouais.
Clairement, elle ne veut pas vous voir en dehors ou prendre un verre ou faire quoi que ce soit d'autre. Donc,
exactement.
Il faut devenir quelqu'un de particulier.
Bah, il faut rentrer dans son monde, quoi. Ça, c'est sûr. Et c'est ce qui va se passer, évidemment. Ça va être plus fort que moi, d'ailleurs. C'est même pas moi qui vais provoquer l'entrée dans son monde. Il n'y a là aucune allusion chelou ou sexuelle, mais c'est un jour le destin va venir frapper à ma porte, quoi. Elle va oublier son blouson en classe, enfin, elle va laisser son blouson en classe. Évidemment, moi, je vais le prendre croyant bien faire et je vais me rendre compte qu'il y a de la drogue dedans.
Okay.
Et évidemment, elle va dire, bon, bah, puisque tu arrives à transporter de la drogue, son patron va me dire, va avec elle à Amsterdam.
Surtout, vous arrivez à vous balader avec le blouson plein de drogue et à traverser un cordon de sécurité et de police qui est venu justement chercher cette drogue en
parce
question.
Que j'ai
donc, vous avez
de,
la tête du mec qui passe partout.
J'ai la gueule du loser, quoi. Ouais, ouais. C'est ça, du gars que tu vas même pas fouiller dans la rue. Tu
aider, dis... aider du pote un peu relou qui lui, même carrément, provoque la police les narguant.
Ce qui les incite encore plus à ne pas nous fouiller en réalité, parce que t'as pas envie de fouiller deux gars un peu nazes qui te disent bah pourquoi vous nous fouillez pas nous. J'ai dit bah ouais, ça sert à rien, on va perdre notre temps, quoi, tu vois.
C'est donc, un conseil que vous donnez à tous les jeunes qui nous écoutaient.
Si vous êtes killer,
les go fast,
que vous portez de la drogue, et ben voilà, il faut porter des lunettes, il faut s'habiller de manière très sobre et très tu vois, pas m'as-tu vu, quoi, inaperçu, et puis tu dis aux flics alors mais vous moi, nous fouillez ouais. pas nous on n'a pas le droit à notre fouille, et là t'es sûr que tranquille, je pense. Ouais.
Ouais. Ou pas.
C'est une radio de service public.
Moi, c'est un conseil. Après, les gens, les gens tentent et ils en font ce qu'ils veulent.
Tu
quoi,
prends
tu
ce que tu veux.
C'est-à-dire qu'on leur conseille pas de ne pas dealer. On leur conseille juste d'être discret.
Bah oui.
Revenons à l'essentiel.
On va pas leur conseiller de ne pas dealer. On est quand même pas sévère à ce point.
On est quand même en 2017.
On est quand même le moderne.
Romain Lévy, vous avez eu l'idée de ce Gangsterdam.
Enfin, si on peut appeler ça une idée.
C'est un patchwork de sensations, c'est plus.
Il fallait quoi, trouver avoir une espèce de road movie, parce que c'est vrai que ça voyage beaucoup entre la France et Amsterdam. Il y a des cascades, il y a de la voiture, il y a des poursuites, il y a des bandits, il y a des gentils, il y a des méchants. Enfin,
il y a tout ce que j'aime.
Et il y a une affiche un peu à la pulp fiction. Enfin, on se retrouve avec vraiment ces films.
Jack Burton. Exact. Ouais. Non. En fait, l'idée c'était que suite à Radio Star, on a eu
que vous avez réalisé
il y a quelques années. On a eu une bienveillance fantastique d'un public plus jeune auquel je ne m'attendais pas. Donc je me suis dit, je vais faire un film pour eux. Parce que je me souvenais que moi-même, en tant que spectateur, je ne trouvais pas vraiment ce que j'espérais dans le cinéma français sur les ados. Je trouvais toujours que c'était dépeint de manière un peu rapide. Je ne reconnaissais pas les vêtements, les discussions, tout ça. Donc je me suis dit, ça, c'est un bon challenge. Et puis, dans les conversations qui reviennent souvent entre ados, c'est est-ce qu'on part à Amsterdam ? L'idée de l'interdit me plaisait plus que la drogue en elle-même. Ce n'est pas ça qui me passionne. Ce qui me plaît, c'est l'idée de s'amuser à se faire peur. Donc, et de faire un film d'aventure.
Non, on va faire très attention au prosélytisme. Franchement, on est passé de l'autre côté de la ligne avec la drogue en elle-même, c'est pas un vrai problème.
Non, quand je dis c'est pas un problème, ce que je veux dire par là, c'est que l'idée c'était pas de faire un film sur la drogue, c'était autour du parfum de l'interdit.
C'est ça. Alors moi, l'idée c'était vraiment de faire un film sur la drogue.
Oui, voilà. C'est plus Kev. Kev est vraiment venu pour ça.
Moi, c'était ça mon délire.
On m'a dit rajoute des scènes de drogue.
Là-dedans, il y a tous les codes des films de gangsters et d'aventure. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a les
poursuites de bagnoles, les fusillades, les bagarres,
les prises d'otages,
tout ça, et puis toutes ces situations où on est confronté à la violence et où les héros sont confrontés à la violence, et comment on fait pour s'en sortir sans soi-même devenir un criminel. C'était un des axes de comédie qui m'amusait beaucoup.
Et il faut qu'il y ait ce duo un peu comme dans les films, les grandes comédies style La Chèvre et compagnie.
Exactement.
C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait celui qui est le moteur et le boulet qui va finalement être déclencheur de beaucoup de choses.
Il y a plusieurs boulets quand même.
Ah, c'est un système, et puis l'idée c'était de renouveler un peu ce duo là parce que
c'est comme le vin
Combe qui incarne ce personnage là dans le film,
qui est formidable,
et puis il est très extrême, très trash, et c'est très amusant de se dire que on va pas se priver, sous prétexte qu'on fait un film d'aventure, de cascade et tout ça, d'une certaine liberté de ton qui va donner un peu de singularité au film.
Singularité.
Voilà.
C'est-à-dire, vous reprenez les mots-clés, en fait, des phrases
exactement.
De Romain.
Exactement. C'est pour les gens qui n'ont pas le temps de suivre le flow de Romain, je leur pick up les mots les plus importants.
Le point de débat, il faut dire, vous êtes d'abord auteur avant d'être réalisateur.
Ouais.
Donc, tout se fait à l'écrit. Est-ce que vous voyez déjà les scènes, vous les imaginez déjà, vous êtes allé voir, vous saviez que Kev Adams ferait partie du film, vous avez écrit pour lui?
Ça fait plein de questions. Ouais. Je vais essayer de le faire dans l'ordre. Non, quand on
écrit,
l'idée majeure qui me plaisait le plus quand j'ai démarré le film, c'était l'idée de trois blaireaux qui sont invités à la fête des Corleone. Je voyais toujours la fête du parrain au début, et je me suis dit, moi, si on m'invitait chez les Corleone, qu'est-ce que je ferais si je m'incrustais dans une fête de famille de gangsters
au milieu des mafieux?
Ouais, comment on fait? Je trouvais que ça pouvait susciter plein de scènes de comédie, puis après t'as d'autres flashs qui viennent, et puis après tu fais ton lien en général. Et la question
pour Kev, comment est Kev rentré
est rentré après que le film soit abouti sous forme
de
scénario.
Très dur à faire.
Ah oui, c'est très particulier. Mais j'ai découvert son spectacle sur M6 voilà Et puis il parlait de trucs super intimes qui sont assez rares chez des comédiens, chez des comiques quand ils sont sur scène, où généralement plus le spectacle est important, plus le ton est lissé, moins il y a d'impudeur. Et Kev, je trouve que malgré son jeune âge, il arrive à dire des trucs super intimes dans des salles gigantesques. Je crois que c'était au Dôme de Marseille. Ça m'a touché immédiatement. On se connaissait un tout petit peu. On a pris rendez-vous et puis on s'est très bien entendu. À chaque fois qu'on se voyait un peu plus, c'était à chaque fois mieux. Donc voilà.
Vous reprenez les mots clés en fait. Voilà.
C'est mon bac comme dans les concerts de rap. C'est le mec qui répète. Tu vois la phrase. C'est le mec derrière avec la capuche sur la tête.
Sur la tête. Donc le problème c'est que vous allez être évidemment tout va de pire en pire. C'est-à-dire dès qu'il y a une situation, dès que vous voulez vous sortir, Kev avec Nora qui est jouée par Manon Azem, dès que vous voulez vous sortir d'une situation, ça devient encore plus grave.
Bah, c'est ça qui est très kiffant dans ce film, c'est qu'à chaque moment, à chaque fois que tu te dis bon bah c'est bon là ils s'en sortent, et c'est pire et c'est encore pire et c'est encore pire. Moi c'est ce genre de film là que j'aime voir en comédie, en aventure. Quand tu vois des films où les mecs, ça se passe bien pendant tout le film.
Tu vas vite t'emmerder.
Et ils ont un truc à faire, ils le font et finalement sans encombre, tu dis bon.
Mais vous êtes un faux héros, c'est-à-dire vous n'êtes pas ni celui qui sait se battre, ni celui qui a.
C'est pour ça qu'il m'a donné le rôle, Nagui. J'ai pas la gueule de Ryan Gosling, moi, tu vois bien. Donc il fallait bien que je sois un faux héros, tu vois.
Et
donc,
vous êtes beau gosse quand même, Kev Adams.
Bah, c'est gentil, mais bah, bon, oui. Tu vois, je suis un beau gosse, voilà.
Oh, tu t'entretiens, quoi.
Ah bon,
il y a deux mecs à qui
là tu me trouves entre eux. Ouais, c'est ça, c'est très gênant quoi. Écoutez les gars, on se voit après, j'ai envie de vous dire.
C'est un beau gosse mais qui justement n'arrive pas à draguer.
C'est ça l'ambiguïté. Ouais, et puis c'est pas et puis soyons honnêtes deux secondes, je sais pas pour faire le mec humble, il y a des vrais beaux gosses, tu vois, dans le cinéma français. Je trouve que moi j'en fais pas vraiment partie. Moi je trouve que je suis plus ce genre de petit gars qui peut justement faire le mec timide comme le mec un peu loser, comme tu vois ce que je veux dire. Donc c'est ça aussi qui m'intéressait là-dedans, c'est que ce mec devient un peu un beau gosse au contact de cette fille, au contact de cette aventure qu'il va vivre. Et c'est ce qui m'a plu, c'est ce que Romain voulait vraiment vraiment montrer dans ce film, c'est que voilà, c'est ce qu'il dit au début, ce qui est important dans la vie, c'est pas ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on sait pas encore faire, et surtout c'est ce qui nous fait grandir. Et donc s'il y a un fond dans ce film, un fond à toute cette aventure complètement folle et très drôle, c'est ça.
Ce qui est surprenant, c'est que ce garçon étudiant donc en master est donc intelligent, en tout cas d'un point de vue scolaire.
Enfin, il se plante quand même au début.
Oui, mais enfin il est quand même arrivé là. Donc c'est un garçon plutôt dans la catégorie des intelligents, qui va faire beaucoup de conneries et qui n'a pas le sens pratique de la vie.
Non, il a pas du tout le sens pratique, effectivement, il est assez maladroit, en même temps tu sens que c'est un peu un grand môme quoi. Et lui et son pote, tu sens que c'est un peu des t'as l'impression qu'ils ont
et qu'il va être en contact avec la vie dehors quoi, c'est-à-dire que dès l'instant où il sort du bahut, là il a la vraie vie qui l'attend.
Exactement. De toute façon, on voit bien sa routine au début du film sans spoiler le film. Le gars, il va à la fac, il rentre chez lui, il se fait insulter par son petit frère, il se fait son père ouais, lui
très
son,
drôle, ça.
Son père lui dit qu'il est dans
qui
la mauvaise
caïra, c'est-à-dire que il a un petit frère de quoi de 12-13 ans,
ouais, c'est ça, ouais.
Qui lui parle mais comme de la merde.
Alors que qui est hyper vénère dans le
c'est
film,
ça.
Ouais. Ouais, qui est constamment vénère.
Petit caïd, ouais. Et là, vous l'avez vu
oui,
aussi.
Oui, j'ai vu le film aussi. Alors, le petit caïd, moi, c'est pas forcément ce qui m'a plu le plus, mais ce qui m'a plu, en revanche, c'est la scène. J'ai beaucoup aimé le personnage de Côme, de Durex, parce que je le trouve complètement hors temps, hors sol. Et il se protège aussi. Et la scène qui, moi, m'a fait vraiment hurler de rire, c'est la scène où il est dissimulé sous un canapé.
Non,
je vais pas la raconter.
Pas. Ah ben non, faut pas le dire.
Je vais pas la raconter, bien sûr. Mais en tout cas, j'ai trouvé que là, on était dans une forme d'humour qui, moi, me plaît, qui me convient, au sens où on est vraiment dans la comédie jusqu'au ridicule, jusqu'à l'absurde absolu. Et quand le film allait vers ces moments-là, je trouvais ça vraiment très très bon.
Ah super,
voilà.
Merci beaucoup.
Bah, l'humour canapé, c'est payant.
Ouais, ouais, oui. C'est vrai.
Et dans canapé, il y a canapé. Le film s'appelle Gangsterdam. Il sort ce 29 mars avec Kev Adams.
Et allez-y, vraiment, Côme est effectivement la révélation de ce film. Une des révélations avec Manon Azem qui est extraordinaire aussi. Très belle et très talentueuse. Donc,
ouais, ouais. Et puis,
si vous écoutez France Inter et que vous vous dites « Ah non, pas Kev Adams », allez-y pour les deux autres qui sont très très
talentueux. Pourquoi vous pensez que des gens ne vous aiment pas à ce point-là?
Parce que j'ai lu des messages ce matin de gens qui disaient Kev Adams sur France Inter, on aura vraiment tout vu. Tu vois, des trucs comme ça. Nagui, laisse-moi terminer. Et tous ceux qui m'aiment bien et qui écoutent France Inter. Parce que tu n'écoutes pas les réponses, Nagui.
Mais si, j'allais
tu poses des questions, tu n'écoutes pas les réponses. N'est-ce pas?
C'est totalement vrai.
Voilà.
C'est totalement vrai. C'est
poignardé par ta propre équipe.
Je confirme.
Et pour tous ceux qui m'aiment bien, allez-y. Et pour moi, et pour les deux autres qu'on a vu trop rarement pour l'instant au cinéma, Côme Levin et Manon Azem, je le répète, et qui sont extrêmement talentueux dans le film.
Côme Levin, on l'avait vu dans Le Petit Locataire, par exemple. Il jouait
ou dans Radio Star, le premier film
de Romain.
Dans
Radio Star, et on l'a vu récemment dans autre chose.
Dans Patient.
Ah, Patient, absolument.
Dans Patient, le film de Grand Corps Malade. Ouais.
Super, dont on a parlé ici.
Super.
Faut pas s'arrêter aux haters. Non, mais faut pas s'arrêter aux haters. C'est pas parce qu'il y a un
mais
mec.
Mais du coup, ça veut dire que tu regardes
mecs.
Encore.
Ouais, bien sûr. Mais je crois que c'est important de pas être déconnecté de cette réalité. Ça reste une réalité qui est importante.
Est-ce que c'est la réalité?
Après, il faut pas que ça te pourrisse de l'intérieur. Mais je crois que c'est important de moi, je suis content de savoir qu'il y a des gars qui me kiffent pas. De la même manière que je suis content de savoir qu'il y a des gars qui me kiffent.
Vous avez pas besoin de lire ça pour le savoir, j'imagine. Personne ne fait l'unanimité.
C'est dur d'avoir un reflet de la réalité aussi fort que celui des réseaux sociaux. Parce que bien sûr, t'entends ce qu'on te dit, t'entends ce qu'on dit de toi et tout ça, mais quand tu l'as devant tes yeux, ça fait parfois du bien. Et je pense qu'il y a plein d'artistes en France qui devraient de temps en temps se prendre cette petite douche froide de réseaux sociaux.
C'est un déversoir à immondice.
Pour être très honnête, dans mon cas, c'est assez juste. T'as des gars qui t'adorent et t'as des gars qui détestent. Ceux qui t'adorent, il n'y a pas vraiment de raison. Ceux qui te détestent, il n'y a pas vraiment de raison. Et moi, ça m'amuse bien de lire ça.
Ah oui, si ça t'amuse, ça va. Mais...
Oula, on est passé dans une ambiance très chelou là.
Non, mais pas du tout.
C'est toi qui l'évoque.
Oui, exactement. La meilleure réponse, c'est de dire vous êtes invité dans une émission sur Inter. Ouais. Point.
Tu trouves ça, c'est la meilleure réponse.
C'est la meilleure réponse. Mais point, il n'y a pas de débat.
Mais demain, sur Morandini. Et alors tu vois.
C'est ça, finalement.
La musique dans ce film, elle est présente aussi avec Booba.
K-E-L, City Gang. 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 Gang, B-A-K-E-L, City Gang, tous ensemble.
Présent également dans ce film.
Tu l'as vu le date de François Fillon?
Les deux bras écartés.
Tu fais un salut du cirque.
C'est-à-dire que la BO va avec le côté gangsta rap qui peut.
Sans canaille, quoi.
La BO déchire. Franchement, la BO, elle tue, quoi. En fait, ça fait longtemps que j'ai pas vu un film français, et c'est pas parce que je suis dedans, où il y a d'aussi bons sons. Les sons sont tous mortels.
Vous êtes toujours à l'affiche de Rock'n'Roll de. Enfin, le film est toujours à l'affiche, en tout cas, vous êtes toujours.
Moi, j'y suis plus dans le film, ils m'ont enlevé.
Non, mais c'est vraiment le.
Guillaume
Canet. Le guest, ouais, mais le guest par excellence, quoi. C'est vraiment l'apparition clin d'œil.
Et j'étais très honoré que Guillaume m'appelle pour faire ça. Et puis, c'était dans la même vibe que Gangsterdam, puisque les deux films sont produits par le même producteur, Alain Attal, qui est un immense producteur. On partage cet avis. Et Guillaume Canet m'a appelé, m'a dit « ça te dit de faire une petite scène, je fais un film où je fais une crise de la quarantaine et je suis mal dans ma peau et ce serait cool que je te croise en boîte et que toi tu sois trop bien dans ta peau et trop à l'aise ». Et ça m'a fait rire, je lui ai dit « bah ouais grave, carrément, avec plaisir ». Donc voilà, je me suis éclaté à tourner avec lui.
Ah, ça marche bien en plus.
À tel point que voilà, on a même d'autres projets maintenant ensemble, donc je suis très,
bien.
Très heureux.
Très cool. Gangsterdam sort donc ce mercredi.
Mais c'est toujours à l'affiche Rock'n'Roll, ouais.
Je crois que c'est toujours à l'affiche. Ouais, c'est toujours à l'affiche. Leïla, vos oreilles ont sifflé quand on vous a annoncé la venue de Romain Lévy de Kev Adams.
Oui, quand je pense à vous, Kev Adams, j'entends un jeune amoureux.
Je suis fou amoureux d'une des plus jolies filles de la région.
Je veux bien t'aider, mais après tu disparais de ma vie.
T'es puceau?
En fait, je préférerais être puceau. J'ai eu une expérience malheureuse avec une cousine.
Cousine?
Ouais, enfin, hyper éloignée, hein. La fille du frère de ma mère.
Ta cousine?
Et sinon, vous êtes sur Twitter?
Sur quoi?
Quoi, vous connaissez pas Twitter?
Si, je connais Twitter. Non, tu crois que j'ai quel âge exactement, toi?
Je sais pas, j'ai entre 30.
Ta gueule.
C'est un extrait de la bande-annonce de Fiston de Pascal Bourdiot, votre premier grand rôle au cinéma, aux côtés de Franck Dubosc.
Exactement.
Vous étiez déjà rodé à la scène au moment du tournage, mais le premier jour...
Moins qu'aujourd'hui, forcément,
mais vous aviez quand même fait pas mal de scènes.
Bien sûr.
Et le premier jour du tournage, je crois que ça a été un peu compliqué, Kev Adams.
Alors le premier jour de tournage, pas compliqué, mais ça a été émouvant.
Ouais, ah oui.
Très émouvant parce que j'ai rêvé toute ma vie de faire du cinéma et j'ai fait beaucoup de casting et j'ai galéré, ce qu'on peut appeler galérer, évidemment, il y a des gens qui galèrent vraiment beaucoup plus que moi, je fais partie des chanceux, mais j'ai eu quand même pas mal de galères, surtout à un jeune âge où ça fait mal qu'on te dise non et tout ça, donc c'était pas facile. Et effectivement, je me retrouve ce matin-là, Aix-en-Provence, dans la voiture, je tourne un film, je suis en premier rôle avec Franck Dubosc, et le tout me submerge, et il y a ma mère qui me dit « je suis fier de toi, tu vois, finalement, t'y as cru, t'y es arrivé », et je commence à pleurer tout seul dans la voiture. Et la scène était, quand je vous la raconte comme ça, ça peut être émouvant, mais elle était ridicule dans la voiture, parce que j'étais avec le chauffeur du tournage à côté. Mon chauffeur, qui est vraiment cool, qui s'appelle David, et il est à côté, il me dit « ça va, tout va bien ?» Et moi, je lui dis « ouais, ça va, ouais, je me sens bizarre !» Et il me dit « ah ouais, ça va pas du tout, en fait, tu vois ?» Et j'étais vraiment très, très ému ce matin-là, et j'en garde effectivement un souvenir un peu magique, quoi, de ce tournage. Ça restera toujours vraiment magique dans ma mémoire et dans mon souvenir. Quoi.
Et la réalisation d'un rêve et le vivre vraiment.
Exactement, ouais. Ouais. Et puis je pleurais aussi parce que je me disais, ça se trouve, ça va être le dernier film.
Et
bah
ouais. Il y a d'autres événements comme ça qui pourraient susciter chez vous une telle émotion?
Bien sûr, il y en a eu récemment, je ne vais pas vous mentir, mon entrée au musée Grévin, alors que c'est pas
c'est ça veut cool
pas
quand même.
Non c'est super mais c'est, ça veut pas
ça pourrait paraître kitsch comme
oui,
ça
oui c'est ça voilà exactement et en fait je me suis retrouvé pareil très surpris à être très très ému je me suis retrouvé il y avait ma grand-mère il y avait ma famille ma grand-mère elle m'a dit des phrases complètement improbables de qui m'ont beaucoup ému voilà donc ce jour-là aussi je me suis retrouvé très très ému. Parce que j'avais un grand-père qui, évidemment, n'est plus de ce monde, malheureusement. J'en ai parlé plusieurs fois dans des interviews. Et il kiffait le musée Grévin de ouf. Il adorait le musée Grévin. Il allait prendre des photos avec Aznavour. Et il était sûr que, et il était sûr que c'était vraiment Aznavour qui était dans le délire. Et du coup, voilà, ma grand-mère était très émue. Et elle disait avec papy, on venait voir Aznavour et tout. Et voilà. Et donc, ça aussi, ça m'a beaucoup ému. Et dans les événements récents, il y a aussi spectacle avec Gad. Moi, Gad, c'est le gars que je regardais quand j'étais petit avec ma famille en me disant, putain, c'est charmant de faire rire les gens et tout, c'est un truc de ouf. C'est Gad Elmaleh et tout, et que j'ai été voir tous ces spectacles en live avec ma famille et avec mes potes et pareil avec mes grands-parents. Et voilà, donc il y a une consonance très très forte dans ces événements-là, puisque c'est des choses qui sont pas seulement dans ta carrière, pas seulement en tant qu'artiste, mais qui ont des résonances familiales. Oui. Moi, Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, ça a des résonances familiales. Je suis issu d'une famille qui vient de Tunisie et d'Algérie, donc forcément, quand Gad Elmaleh parlait des problèmes de toute cette génération des pieds noirs qui sont arrivés en France, dans ma famille, ça avait un écho particulier. C'était pas juste c'est rigolo. Pour nous, c'était le quotidien, c'était ce qu'on vivait. Donc, effectivement, de monter sur scène avec lui, de partager la scène, donc qui je pense est l'endroit le plus intime qu'on peut partager avec Gad Elmaleh. Même un lit, c'est pas aussi intime que la scène. C'était effectivement très très émouvant. Et à la dernière à Bercy, j'étais très ému. Voilà pour les derniers moments où j'ai été. Très touché. Quoi.
En fait, vous êtes touché quand vos rêves de gamin deviennent réels.
Ouais,
c'est
ouais,
ça.
Ouais,
l'élection
ouais.
de Marine Le Pen, ouais. Vous allez chialer.
Non, mais je sens que vous, oui.
Ah, vous êtes perspicace.
Non, non, mais oui, bien sûr, parce que c'est des trucs.
Ça
que
continue de vous étonner, en fait.
Mais tu rêves tellement fort de ces choses-là, tu te dis, c'est pas possible, au fond. Au fond, c'est pas possible.
Qu'est-ce qui pourrait être prévisible comme événement qui pourrait vous faire pleurer? Donc, un rêve qui pourrait être sur le point de se réaliser ou...
J'ai encore plein de rêves et j'assume ça à 1000%.
Non, mais j'ai l'impression que même la reconnaissance de votre métier, vous continuez encore de vous poser la question de savoir si c'est votre place, si vous êtes reconnu.
Bien sûr, ouais.
Donc, j'imagine qu'un des Césars ou un prix serait...
Bon, non, ça c'est un peu... Et puis, pour être très honnête avec vous, ce serait mentir que de dire que je rêve de ça. Ce serait chambé si ça arrive, mais je rêve pas de ça. Je suis pas un gars qui rêve de... En fait, moi, ça me touche. Dès que ça touche à mon histoire ou à l'histoire de ma famille, je suis un mec très famille. Et les Césars, dans ma famille, tout le monde s'en est toujours foutu. On s'en fout des
non,
Césars.
Non, mais c'est le prix de la reconnaissance par ses pairs.
Voilà, ça, évidemment, ça me toucherait beaucoup. Mais c'est... dans les rêves, il y a plus tourner avec certaines personnes. Il y a plus essayer...
Comme qui, par exemple?
Ça peut paraître complètement ouf, mais j'adorerais faire un film avec Gérard Depardieu. Mmh. Alors qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il y a plein de gens qui pensent que... Pour moi, Gérard Depardieu, il est intact. Moi, j'ai vu La Chèvre quand j'avais 12 ans et demi, et j'ai rencontré Pierre Richard, j'ai jamais rencontré Depardieu, et pour moi, c'est des choses qui sont très très fortes, quoi, qui sont puissantes.
Alors, revenez demain, Pierre Richard est là.
Mmh. C'est vrai.
À votre place.
Je le connais, Pierre, il est vraiment, vraiment plus adorable, il a une pêche incroyable. Ce mec-là, vraiment, c'est. J'espère que je tournerai avec lui. Après, c'est toujours pareil. Il faut trouver les bons projets, il faut trouver les
voilà,
bons
c'est
axes.
C'est tourner avec des grands, essentiellement.
Tourner avec des grands, tourner dans d'autres langues.
Les grands, les dans grands que vous citez sont des grands comédiens. C'est plus que des réalisateurs ou des auteurs.
Ben ouais, c'est vrai.
C'est
que
plutôt être à côté. C'est vrai que c'est plutôt le partenaire de jeu.
Complètement, d'accord. Complètement. Ça me. Après, bien sûr que j'ai envie de tourner avec des grands metteurs en scène, mais. Mais ça, je fais plus confiance à la vie, à ce qui va se passer, tout ça. J'aime bien me laisser surprendre. Mais en rêve, moi, si j'ai des rêves aujourd'hui, ouais, ce serait tourner avec des grands comédiens, ce serait...
Et en anglais.
Potentiellement tourner en anglais. Je viens de tourner une série en anglais. Ça a été une expérience très compliquée, très particulière, qui m'a donné envie d'y retourner. Parce que, effectivement, c'est la première fois que j'avais l'impression de ne pas savoir parler, tout simplement. C'est-à-dire que
Et puis vous mettez en danger, vous repartez de zéro. C'est-à-dire que
ouais, c'était assez dingue.
En dehors de nos frontières, être connu en Angleterre, aux États-Unis.
Repartir de zéro, oui et non, dans le sens où de toute manière, tu risques pas grand-chose.
Je parle pas d'expérience, je parle de la notoriété, la reconnaissance du public aux États-Unis, en Angleterre.
Ah non, tu pars comme s'il y a pas de notoriété, il y a zéro notoriété.
Donc on prenait un risque supplémentaire.
On a tourné en Amérique, la série est produite par une boîte américaine, donc pour le coup. Il y a zéro notoriété, quoi. Quand je disais, bah, j'aimerais bien aller aux toilettes, ils me disaient, bah t'attends, tu vas pas nous casser les couilles. Je disais, voilà, ok, bien vénère, les gars, quand même. Donc, et surtout, le plus violent, c'est de faire une scène avec des Américains sur le plateau. Les acteurs étaient tous des Américains, et les Américains font aucun effort. Ils en ont rien à foutre que tu viennes d'un autre pays. Pour eux, la France, c'est la Serbie, quoi. C'est assez violent d'ailleurs quand
ils savent même pas où est géographiquement la France sur la planète.
Je leur ai dit, la France, c'est où? Ils m'ont dit, c'est entre l'Italie et l'Espagne. Les gars, ils sont paumas par rapport à ça. Et on discute, et effectivement, dès que je disais un mot, il y avait une scène qui démarrait, un gars qui disait « Attention, il arrive !» Elle disait « Qui c'est qui arrive ?» Moi, j'avais ma réplique, je disais « Ouais, lui, il est né !» Coupé ! On entendait. Il y avait une meuf qui arrivait qui disait « Donc non, quand tu parles, on ne comprend pas. C'est très compliqué. » Je disais « Ah bon, mais alors comment je dois faire pour... Alors voilà, comment tu dis ?» Moi, je disais « Where is it ?» Elle disait « Non, it's where is it ?» Moi, je disais « Where is it ?» Elle disait « Non. » Ouais, et ça prenait l'accent, 35 minutes.
L'accent tonique était pas au même endroit, mais vous avez pris un coach.
Exactement, j'avais une coach sur le plateau, et elle m'a pris la tête pendant 5 semaines non-stop, et je crois que le résultat
L'accent tonique en anglais peut changer le sens d'un mot, en fonction de l'endroit où est l'accent tonique, le mot n'a pas le même sens.
Exactement, tout change.
Et le personnage est supposé être américain?
Non, c'est un Français qui vit aux États-Unis, mais qui vit aux États-Unis, qui est supposé vivre aux États-Unis depuis un an. Donc
ouais, mais il a le droit de pas avoir l'accent tonique en un an.
Ah non, mais j'ai un accent français dans la série, je vous arrête tout de suite. Je suis pas du tout en oh my god. Get around now. J'ai un vrai accent français, mais le problème c'est que la série est faite pour une plateforme qui va être vendue dans le monde entier, donc dans 90 pays, et eux ils ont ce qu'ils appellent un Midwest English, qui est genre l'anglais que le monde entier comprend. Et sur cet anglais là il faut mettre des accents toniques, c'est là que t'appuies, enfin bref, petite galère mais très instructive et qui m'a donné envie d'y retourner. Et pas que en anglais, effectivement, je vais avoir l'occasion de tourner un truc en Inde à la fin de l'année. Je suis très intéressé par ce projet, ça me fait plaisir de tourner en indien, en indie.
Waouh, tonne de projets, c'est super. Ouais.
Et quand je pense à vous, Romain Lévy, je me pose une question liée à un film. On écoute.
Frappuccino café et chai tea latte soja venti. Quel nom?
Pourquoi?
C'est le concept, mademoiselle. On note le nom sur le gobelet, on vous appelle et vous passez prendre votre boisson.
Enfin là, je suis toute seule.
Pas de nom, pas de boisson.
Bonjour, je viens voir Justine, je suis son père.
Ah d'accord, pardon, vous pouvez vous asseoir là en attendant.
Non, mais je préfère rester debout.
Non, il faut s'asseoir, c'est la procédure.
Oui, mais je préfère.
J'appelle la sécurité.
Et soudain, tout le monde me manque.
Ouais, de Jennifer Deventer, une très belle amie à moi.
Et c'est votre seule expérience de comédien, Romain Lévy, je crois.
Non, il y en a une autre dans le film de Manu Payet qui s'appelle « Situation amoureuse, c'est compliqué ».
C'est alors marrant. Quand on a été auteur, scénariste, réalisateur, on n'a pas envie plus souvent de passer de l'autre côté de la caméra un peu plus régulièrement.
Des fois c'est tentant, parce que quand on écrit ou qu'on lit des dialogues qui sont rigolos, on a envie de les dire. Mm-hmm. Mais je pense que c'est très difficile le métier que Kev fait. Être comédien, dépendre du désir des autres, construire son ego en fonction des gens qui vous contactent, qui vous sollicitent, je pense que j'aurais pas le cœur assez solide pour pouvoir y tenir, mais l'idée de temps en temps de jouer des cons, ça m'intéresserait pas de jouer des rôles, tu vois, des premiers rôles, des machins, mais jouer le pote abruti, je trouve que c'est génial. Je le faisais un petit peu dans le film de Manu, j'étais très content de le
faire. Avec Géraldine Nakache.
Et là,
c'est souvent des personnages qui sont des déclics. Oui, et puis des déclics dans l'histoire, qui permettent des rebondissements. C'est le cas de
Gomelin aussi. Ouais, c'est le mec qui dit tout ce que le héros qui porte l'histoire sur ses épaules ne peut pas dire. Parce que lui, on est censé pouvoir s'identifier à lui, donc il a pas de propos excessifs. Mais le pote, il est aussi, il sert à borner le héros dans son voyage existentiel, à avoir les propos excessifs, les interprétations du réel excessifs. Donc,
c'est le Pierre Richard dans La Chèvre, voilà, c'est ça, tout à l'heure.
C'est ça. Ouais. Et celui-là, il est sympathique à faire.
Et j'ai la sensation que vous travaillez beaucoup par bande, parce qu'on parle de Manu Payet.
Il y a Mathieu Ollion aussi, qui est mon co-scénariste, qui était déjà présent sur Radio Star.
Entreprise familiale, là.
Ouais, on bosse entre potes, on a galéré ensemble à nos débuts. Et puis, c'est très sympathique de pouvoir proroger tout ça de film en film, que ce soit des petits films ou des gros films. Oui, proroger, c'est un terme contractuel qui vient,
de Roger le Boucher, voilà, qui est un vrai pro.
C'est les partisans de Roger. De continuer tout ça, quoi. C'est très sympa de regarder nos vies qui ont évolué. On parlait de Philippe Méchelin aussi, qui tourne son premier film bientôt, que Nagui connaît, qui est un
parce
coach
qu'on a, avec
qui
parce qu'on a travaillé ensemble.
On a travaillé ensemble avec Nagui il y a longtemps, et lui fait son premier film. Et puis des fois, quand on se recroise, on se voit pas toujours tous, mais on se rappelle de nos conversations en bas des apparts qu'on avait au départ quand lui venait de province. Et on aujourd'hui,
les galères, il est pas, ouais, les galères,
bien sûr, ouais. Pas les grosses galères, on n'est pas à plaindre. Mais nos vies ont changé, et puis la latitude des champs dans lesquels on peut s'exprimer, c'est un peu élargi. Donc ça, c'est quand même sympa.
Merci. Gangsterdam sort donc ce mercredi avec Comme les vins, Manon Azem et Kev Adams. Kev qui d'ailleurs dans la série dont vous avez parlé à Los Angeles, vous jouez le rôle d'un personnage qui a le cœur brisé et qui parce qu'il n'est pas en forme fait une petite dépression, donc il va fumer un pétard, il prend un peu d'herbe et là il se fait arrêter par la police. Donc en fait le côté amoureux et beuh, c'est deux
ça a été mon année, ça m'a fait l'année. On ne peut pas vous mentir, ça m'a fait l'année.
On va faire un petit contrôle à la sortie. Voici l'humeur de Nora Hamzaoui.
Très grande comédienne, Nora.
Je confirme. Merci Nagui, merci tout le monde.
Bah, sincèrement, en plus pour de vrai, avant que tu lances ta chronique, pardonne-moi. Je connais peu l'univers de Nora, j'en ai entendu parler plusieurs fois. Et il n'y a pas longtemps, je bosse sur plusieurs films là, et il n'y a pas longtemps sur un des rôles d'un film, on m'a dit bah là on aimerait beaucoup Nora Hamzaoui. Je dis ah cool et tout.
Ah bah ils m'ont rien proposé.
Bah, je sais, mais c'est pour ça que je te le dis. Pour ça, je te le dis avant ta chronique, ça va te mettre dans une bonne vibe.
En plus, c'est un spectacle de ouf. Spectacle de ouf.
Ça veut dire quoi? Ils veulent, mais ils me demandent, ils veulent plus en fait?
Non, ça veut dire que.
T'es fou, elle va filmer.
Non, mais c'est normal,
elle est foutue, là.
Elle sait très bien comment ça fonctionne.
T'es pas encore au courant avant les comédiens.
Avant d'envoyer les scripts aux comédiens et comédiennes, il y a des petites réunions avec les producteurs et chacun dit ah, bah, moi j'aimerais bien elle, moi j'aimerais bien lui, moi j'aimerais bien ci, moi j'aimerais bien ça. Et moi j'ai la chance parfois d'assister à ce genre de discussion. Et récemment j'ai entendu ton nom dans ce genre de discussion. Donc déjà, t'es dans les petits papiers du cinéma français, quoi, tu vois.
Mais ils sont bien chez Jackie et Michel.
Ah, écoute, je me disais, ça fait longtemps qu'il a pas parlé, ce petit cochon.
Ça, c'était pour dire une connerie.
Ah, non, pas du tout. Bonne production, il y a une jolie lumière.
Figure-toi que Jackie est un gars vachement cool.
C'est vrai,
et Michel,
attends,
pas dégueu.
Vachement cool, Jackie.
Allons-y, non,
c'est la course. Alors, oui, merci beaucoup. Je sais pas pourquoi je dis merci, alors que. Bon, bref, ce week-end, c'était le changement d'heure. Voilà, une info passionnante. Alors, moi, je vais vous dire, le changement d'heure, je m'en tape, mais vraiment. Mais non, mais voilà, alors ça, je ne comprends pas. Voilà, j'allais en venir là, je ne comprends pas l'angoisse des gens autour du changement d'heure. Tu sais, tout ça qui sont là, c'est crevant, mais comment on va faire? Ah là, ça va être dur demain. Je crois que le pire, c'est ceux qui estiment que c'est important de le rappeler aux gens, et il y en a plein. Non, je suis tombée sur un nombre de messages Facebook. Attention, cette nuit à 2h, il sera 3h. Attention, quoi? Enfin, je veux dire, puis qu'est-ce que ça peut te foutre si j'oublie? T'as décidé de prendre soin de toute la communauté humaine en hiver. Mais c'est quoi la démarche de ces gens en hiver? Ils sont là à 5 degrés, sortez vos écharpes. Ça n'a pas de sens, en fait. En plus, sérieusement, si t'oublies de changer l'heure, il y a juste un moment dans ta vie, et sûrement pas plus tard que le lendemain, du changement d'heure, où tu te rendras bien compte que t'as un problème de ponctualité. Je veux dire, c'est pas l'info à ne pas louper, tu vas t'en rendre compte, quoi. Enfin bref, à la base, j'étais pas du tout venue pour vous parler de ça, mais plutôt d'un autre état d'angoisse un tout petit peu plus en lien avec le film, puisque je voulais vous parler de mon premier et du coup dernier week-end à Amsterdam.
Ah.
Alors ouais. Alors pour le coup, à la base, tout avait hyper bien démarré. On était complètement hors cliché des week-ends de base à Amsterdam. Quand je dis hors cliché, en gros, ça veut dire on n'y allait pas pour fumer, ouais, voilà, c'est ça. Et non, limite, c'était le week-end un peu branchouille, un peu design, pas du tout le truc de parisien relou. Plutôt, on avait un pote de pote qui habitait là-bas et qui habitait dans un loft. Donc moi, tu me dis loft, tout de suite, je suis là genre ouais, je vais dans un loft. Enfin voilà. Et bref, on arrive dans le Thalys et là, méga bonne nouvelle, on croise Dany Briand. Alors à la base, je suis pas je suis pas le méga fan de Dany Briand, mais après, je l'aime bien. Mais par contre, je suis pas tout son boulot. En revanche, je me suis rendu compte d'un truc. Quand je croise quelqu'un de super connu dans un cadre pas connu, ben, je deviens systématiquement hyper fan. C'est-à-dire que j'étais hyper excitée de le voir. Je sais pas, je trouve ça fou de mettre en fait quelqu'un que t'as tout le temps vu à la télé dans un cadre quotidien. Donc là, en l'occurrence, la voiture douce du Thalys, quoi. Et puis, je trouve ça cool de voyager avec quelqu'un de connu parce que typiquement dans l'avion, un jour, j'ai voyagé avec le mec qui présente la Maison France 5. Et du coup, j'ai eu vachement moins peur du vol parce que autant normalement j'ai hyper peur dans l'avion, autant là, je me disais, ça peut pas se crasher. Enfin, tu vois, il va rien lui arriver au mec de France 5, c'est sûr, il va rien lui arriver. Après, quand je prends l'avion, je suis sous anxiolytique, donc au niveau de logique et raisonnement, ça passe pas très bien. Bref, j'en reviens à Dany Briand, et en fait, c'est relou parce que passé l'excitation et le moment où je me rends compte qu'on va pas passer le trajet à jouer au Scrabble ensemble, il se passe rien en fait. Donc je passe juste les deux dernières heures du trajet avec la chanson J'ai perdu la tête. Un enfer.
Suzette.
Suzette, un enfer. Donc on arrive enfin, et là, on retrouve nos potes hyper chauds qui décident quand même de sortir dans un coffee shop avant de poser nos affaires dans le loft. Et alors là, bon, bah, un Parisien dans un coffee shop, comment dire, c'est un peu comme un puceau devant les pages lingerie de la Redoute. T'es un peu excité, tu sais que c'est chelou, ça te fascine un peu, et en même temps, tu culpabilises pas parce que bon, bah, si c'est là, c'est que ça existe et que c'est légal, donc t'es contente, y va. Bon, et bah, comme je suis pas du genre hyper aventurière, je demande au serveur something very soft. Donc, bon, là, il se marre, je vois pas ce qu'il y a de drôle. À 22h, je prends ma première latte, à 22h30, j'ai envie de crever. Donc, je décide de garder mon sang-froid, de garder ça pour moi, tu vois, j'ai pas du tout envie de m'humilier devant mes potes, donc je vais prendre l'air toute seule le temps que ça passe. Et puis, au bout de 20 minutes, alors que je fixe un point tranquille dans le canal et que je suis très bien, un pote vient me chercher. Là, il fait le truc relou qu'on ne supporte pas quand on n'est pas bien. Ah putain, la tête. Ah putain, ça va pas. Ah putain, non, mais le gros con, quoi. Donc, je lui explique que ça va, j'ai juste envie de prendre l'air et de profiter un peu du beau temps. Sauf que bon, il fait 4 degrés, il pleut, donc le mec me croit pas. Là, le mec me lance des conseils insupportables. Respire, respire. Non, mais sincèrement, c'est un conseil, respire. Je veux dire, quand t'es vivant, c'est un conseil. Il y a des gens qui te disent ah merde, attends, non, j'avais complètement oublié là. Ouf. Ah putain, je relance la machine, ça va mieux. C'est complètement con. Le mec continue avec ses conseils de merde. Pense à quelque chose de positif. Mec, j'ai fumé, je suis en bad, j'ai pris l'air pour profiter du beau temps alors qu'il pleut. Est-ce que je suis en mesure de savoir ce qui est positif pour moi, quoi? Bon, pour une raison que j'ignore, je décide de penser à Dany Briand. Voilà. Et là, je sais pas pourquoi, mais je me mets à flipper, mais vraiment, quoi. Je me dis, attends, c'est ouf, on l'a perdu dans le train, ça va pas, c'est pas bien. Le mec est hyper connu, ça va se savoir qu'on l'a perdu dans le train et tout. Et je commence à chialer. Je sais pas pourquoi. Bref, je suis de plus en plus angoissée, donc j'hésite entre me jeter dans le canal pour réchauffer mon cœur que je sens complètement glacé et bouffer 28 hot dogs. Bon, bah, comme j'aime pas l'eau, je choisis les hot dogs. Les amis décident qu'on rentre tous à la maison, donc ils sont là, ça va, Nora, ça va, Nora, ça va. Non, mais la lourdeur de ces gens. Il devrait y avoir une règle dans la vie, tu demandes pas aux gens si ça va quand ça va pas. Genre, c'est de la politesse, genre, c'est insupportable. Franchement, quand tu te cognes l'orteil contre le coin de table, quand tu te coupes, quand tu te fais mal, on dit pas ça va, non, ça va pas, c'est tout, ça va pas. Bref, on arrive enfin à la maison et la surprise, c'est pas un loft, c'est une ancienne banque. Donc le gars habite dans des locaux désaffectés. Alors en soi, c'est pas très grave, mais ça s'appelle pas un loft, ça s'appelle un squat, ça n'a rien à voir. Surtout si t'as fumé avant, quoi. Donc voilà. Je demande où sont les chiottes et là, on m'explique que c'est au bout du couloir après le deuxième guichet à gauche. Non, attends. En 30 minutes où je cherche les chiottes, je regrette un peu d'avoir fumé et beaucoup d'avoir bouffé les 28 hot dogs, je peux vous le dire. J'arrive enfin et là, quand je vois mes yeux dans la glace, quand je vois mes yeux, ben, je revois la nuit.
Oui, merci.
La bande originale.
Gangsterdam, le nouveau film avec Kev Adams.
C'est marrant parce que on a eu cette angoisse.
Sort mercredi.
Pardonne-moi Nagui. On a eu cette angoisse avec Gad un jour, on est en tournée dans l'avion. Je te jure que j'ai eu cette angoisse la même. Je suis avec Gad et il y a Jamel qui vient faire un sketch avec nous. Donc il y a toute l'équipe de Jamel, il y a toute l'équipe de Gad, mon équipe. Il y avait deux ou trois joueurs de l'équipe de France, genre Antoine Griezmann et tout, qui étaient dans l'avion. Tout ce monde dans l'avion. Dans un petit avion Air France, ouais.
Ouch.
Et je me disais, avec Gad, on était morts de rire, on se disait, si l'avion il se crache. Qu'est-ce qu'ils écrivent les journaux demain? Jamel Debbouze, Kev Adams, Gad Elmaleh, Antoine Griezmann, ils sont tous morts.
Ouais,
c'est vachement violent, tu vois.
Ou alors ils en oublient. Ils disent juste que les footeux sont morts et ils parlent pas de vous.
Alors c'est ce qu'on se disait.
C'est drame.
Ce serait horrible, quoi, tu vois.
Ça fait penser à Pierre Palmade que j'embrasse au passage. Pierre, un soir, qui doit rentrer à moto. Il dormait chez Johnny Hallyday. Il doit rentrer à moto et Johnny avait bien arrosé la soirée. Et Johnny dit, je te raccompagne. Les deux avaient bien arrosé.
Ouais, ouais,
et tu la connais l'histoire.
Ouais.
Et donc ils montent ensemble à moto et là Pierre et derrière Johnny en disant si on a un accident et qu'on meurt tous les deux, personne ne saura que je suis mort.
Tout pour Johnny.
Le titre sera Johnny Hallyday est mort. Qu'est-ce qu'on a plus à foutre de Pierre Palmade? Voilà, j'embrasse Pierre au passage, je suis ravi que tous les deux soient en pleine forme. Donc,
bah bien sûr,
nous allons évoquer quelques années mises en musique. On va commencer en 2000.
J'irai jusqu'au fond et si c'est un mirage, je remercierai le ciel pour le stage.
Ils sont fous, mais j'y crois.
Rêve de star, c'est Corneille et c'est vous qui écoutiez ça en 2000, Kev?
Que j'écoute encore ça, ouais. Écoute, c'est vraiment sur cette chanson que j'ai eu des rêves de star. Vraiment, j'écoutais cette chanson en allant au casting, j'avais 14 ans.
9 ans.
Je me disais,
9 ans,
oui,
le
ça a commencé plus tôt, mais parce qu'à 9 ans, j'allais pas au casting tout seul, mais après, j'allais tout seul.
À 9 ans, quand même, vous avez votre premier rôle au cinéma, c'est que vous aviez ça quand même dans le sang.
Ça c'est sûr, mais après. Ça me fait rire quand les gens disent il a commencé sa carrière à 9 ans. Parce que j'ai pas commencé ma carrière à 9 ans. J'ai juste eu un petit rôle dans un film à 9 ans. Parce que sinon.
C'est pas le cas tous les petits garçons de 9 ans, quoi.
Bien sûr.
Ça s'appelait Cours Toujours.
Cours Toujours.
De Zart.
Ce qui était très inspirant pour ma carrière future.
Avec Emmanuel Devos et Clément Siboni.
Ouais, non, mais c'était une super expérience. Ouais. Mais c'est vrai que moi je considère pas ça comme le début de ma carrière. Sinon, ce serait très chelou. C'est-à-dire que j'ai eu une traversée du désert de 9 ans à 18 ans. donc c'est très
bien. De... Ouais, c'est ça.
Mais j'ai adoré cette expérience et
à
cette
10
chanson.
10 ans plus de travail.
Et c'est vrai que je chantais cette chanson devant ma glace, dans ma chambre, en me disant chercher l'inaccessible, il y a que ça qui compte. Ils sont fous, mais j'y crois, mes rêves de star.
Et vous êtes posé la question à un moment de choisir entre la scène musique et la scène comédien. Vous avez eu envie de chanter?
Pas du tout.
Jamais.
Aucunement. À aucun moment. À aucun moment je me suis dit, ah ouais, je vais chanter.
Quand on chante avec la brosse à dents devant le miroir en faisant style je suis Corneille, on peut aussi vouloir être Corneille.
Oui, mais en fait, non, j'ai toujours été. Typiquement, on parlait des moments émouvants tout à l'heure quand j'ai rencontré Corneille. Moment émouvant de ouf, quoi. J'ai écouté Corneille toute mon enfance quand j'étais petit.
C'est un mec tellement gentil.
Il est tellement charmé en plus. Et puis je l'ai rencontré à Montréal dans un petit café à côté de chez lui. Enfin, c'était fou. Et effectivement, jamais voulu devenir chanteur. Jamais, parce qu'en fait, dès qu'il y avait ma famille, j'ai toujours fait le con, quoi. Je mettais des perruques, j'ai toujours fait l'idiot. J'ai jamais chanté.
En 2000, Romain Lévy, en 2000, vous écoutiez.
Bien, c'est bien de pas avoir chanté quand même.
Vous écoutez Jay-Z. Allow me
to reintroduce myself, my soul.
Que le Parker.
T'as the OC.
Ah, la version live et tout.
You can call me CEO of the ROC, ho! Supplier!
Via Canal Plus, où vous étiez, vous rencontrez dans la cellule ID Michael Youn et. En fait, comment.
On y était tous au début.
Omar et Fred, Jamel.
Il y avait Omar et Fred, Jamel, Michael Youn, Tomer Sisley, Philippe Méchelin, tous les auteurs des Guignols. Nicolas Bedeau, c'était là-bas aussi. Il y avait à Canal à l'époque une sorte de petit département de mécénat d'écriture.
C'était un nid, quoi.
Qui était dirigé par Nicolas Plisson et Kader Aoun. Et puis, ils ne nous payaient pas grand-chose, mais c'était plus symbolique pour pouvoir développer des trucs. Donc, on écrivait ce qu'on appelle des specs d'épisodes de séries qui existaient aux États-Unis, mais qui ne diffusaient jamais aux États-Unis, comme un épisode de Seinfeld, des Simpsons. On apprenait la comédie. C'était génial parce que...
Parce que c'est mécanique, en fait, l'écriture. Il y a un petit côté mécanique. Il y a évidemment des idées, mais il y a dans les structures, dans le déroulement.
Il y a beaucoup de techniques. On avait aussi accès aux banques de données de Canal. Par exemple, le grand détournement qui a été fait par Michel Hazanavicius. Tout le monde m'en parlait, c'était un truc qui n'existait plus sur le marché, on pouvait pas le voir. Moi, j'ai appelé les archives de Canal pour dire, il paraît que vous avez en pneumatique un truc de fou qui s'appelle le grand détournement. On l'a mis en ligne et je peux dire aujourd'hui, très fier à la radio, que si ce truc est ressorti, c'est parce qu'on l'a diffusé.
Et si ce truc n'était pas sorti, c'est aussi parce qu'il y avait des problèmes de droit.
Donc Warner, attaquez-moi parce que c'est avec moi. Mais c'est vrai qu'on écrivait tous ensemble et c'était une période fantastique parce que tout le monde se serrait les coudes avec des sensibilités d'humour très très différentes. Mais je garde un très très bon souvenir de ça. Ouais.
En 2009-2010, Kev, vous écoutiez Jenali. Cette année-là.
Très bonne chanson.
Alors, je retire la question que j'ai posée tout à l'heure.
Oui, sur la musique.
Du premier album, retweet-moi, bébé.
C'est vrai.
Écoute, je vais te dire.
Ce premier album, c'est retweet-moi, bébé.
Super souvenir, Nagui. Super souvenir, pourquoi? On est en 2009, je cherche des spots pour jouer sur scène. J'ai envie de jouer sur scène. Et cette jeune fille, Jenali, que je respecte beaucoup, est à l'époque en plein gros succès avec cet album et cette chanson. Et elle fait tourner dans toute la France et elle me dit « Viens faire mes premières parties ». Et du coup, moi, c'est mes premières grandes scènes, donc je kiffe. Sauf que, comme tu l'entends, c'est un dos un peu ado, un peu dark. Et je m'attends pas à ça, mais elle a un public, ce qu'on appelle « MO ». Tu sais, ils ont les cheveux bleus et ils s'ouvrent les veines et tout.
Ah, mon Dieu.
Mais ils s'ouvrent les veines cool, hein, pour écouter de la musique. Quoi.
Ah, ok, alors ça
pas
va.
En mode vénère, quoi.
Scarification. Quoi,
et du coup, moi, j'arrive avant elle. Donc, évidemment, je fais un sketch au milieu de la basse, la batterie, le machin. Il y a déjà les mecs qui sont en train de s'installer avec la guitare et tout quand je fais mon sketch. Et moi, j'arrive là, salut, je m'appelle Galab, j'ai 17 ans. Et alors, je sais pas si vous avez vu, mais ma mère. Et les gars, ils me regardent en mode, mais genre, mais casse-toi direct. Toi. On va te frapper fort. Et j'ai fait toute la tournée de Jenali ça et finalement j'ai réussi à convaincre pas mal d'audience quoi, de public et c'était une super expérience
d'apprendre dans l'adversité, c'est-à-dire de débarquer donc sur une scène avec un public qui n'est absolument pas acquis et voir un public qui ne souhaite qu'une chose, c'est que vous partiez pour que leur spectacle commence. Évidemment c'est une formidable expérience quand vous rentrez sur scène,
mais c'est le meilleur exercice. Moi je crois que j'ai fait tous les exercices de ce type là. À un moment donné, je faisais les premières parties d'Anne Roumanoff au Bouffe Parisien tous les soirs au Bouffe Parisien faire les premières parties d'Anne Roumanoff, j'avais 17 ans. Et un jour, j'arrive en retard. Et Anne, elle m'a toujours appris la rigueur au théâtre. Elle m'a dit, si t'arrives en retard, il n'y a pas, tu joues pas, c'est pas grave. Ok, bon, bah tant pis. Et puis un jour, j'arrive en retard avec 2 minutes. Elle me dit, c'est pas grave, t'es en retard 2 minutes, tu vas jouer. Je dis, ok, cool, bah j'y vais. Elle me dit, non, par contre, là, c'est trop tard, c'est moi qui y vais. Je dis, mais alors comment ça, j'y vais jouer quand? Et en fait, elle a fait tout son spectacle de 1h30. Les gens payaient pour voir Anne Romanoff. Hein. Et à la fin de son spectacle, elle a dit, pour ceux qui veulent bien rester, il y a un petit jeune qui a envie de jouer. Donc voilà, je lui laisse la scène 5 minutes. Merci en tout cas, messieurs, et bonne soirée. Et je suis rentré dans une salle où il y avait que des gens qui se barraient.
Avec des blousons, ouais.
Et d'ailleurs, les gens étaient un peu respectueux parce qu'ils se levaient, ils me faisaient comme ça.
Au revoir.
Salut. Salut, mon pote. Et donc, c'était très très violent.
Bilan, mais... vous êtes ponctuel, quoi.
Et toujours pas d'ailleurs. Mais, mais bilan. J'ai appris à jouer dans toutes les situations, ce qui m'a beaucoup appris après dans les grandes salles et tout, à savoir improviser face à n'importe quelle situation, quoi.
Dans ces années-là, vous êtes également invité régulièrement par Laurent Ruquier. Ça a été le premier à vous faire confiance ?
Ça a été un des premiers à me faire confiance, bien sûr. Il a été un révélateur pour moi, quelqu'un de très important dans ma jeune carrière, bien sûr.
Non, on ne demande qu'à en rire. Et vous, Romain, là, vous écoutiez Kanye West. Dans ces années-là, vous co-signez le scénario de Cyprien.
C'est parce que j'ai fait de mieux.
Vous avez travaillé avec Michael Youn également sur Coursier. Vous avez beaucoup travaillé avec Michael Youn sur Les 11 Commandements aussi avant.
Bizarrement, en fait, quand on regarde ma film, on croirait ça. Mais en fait, on ne s'est pas beaucoup côtoyé dans le travail avec Michael, même si ça aurait été avec plaisir. Mais Les 11 Commandements aussi, j'ai bossé dessus, mais une journée. Mais ils ont eu la sympathie de me mettre quand même au générique. Pareil, Coursier, c'est une consultation. Et le réal a été assez sympa pour me mettre au générique alors que c'était 3 semaines de travail par rapport au temps que nécessite l'écriture d'un vrai scénario. C'est bien payé, disons.
D'accord, bah c'est honnête de
Oui, c'est vrai, ils ont été très sympas. Et c'est deux films que j'aime beaucoup, Les 11 Commandements.
Ensuite, il y a eu l'aventure Radio Star, ouais. Et surtout pour Kev, Soda, qui ont été les deux détonateurs, en tout cas, chez nous, ouais. Dans la reconnaissance publique. Gangsterdam sort ce mercredi 29 mars et justement, nous avons demandé pour évoquer l'un des volets, en tout cas, de ce film et parler de la timidité. On a Patrick Avran qui est avec nous. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Merci de venir à ce micro. Vous êtes psychanalyste et écrivain, l'auteur de nombreux essais, dont Les Timides, que vous avez signé en 2007. C'est sur la timidité qu'on voulait vous interroger, parce que c'est un peu le cas quand même.
C'est le point de départ du film.
Le point de départ exactement du film. Le personnage interprété par Kev est un grand timide, incapable au tout début de s'exprimer même pendant un examen. Il est tétanisé, il n'arrive même pas à parler. Y compris quand on est un jeune adulte ou un grand adolescent, ça peut encore arriver de perdre totalement ses moyens, même si on n'est pas devant un micro, devant une caméra, mais simplement devant un jury.
Ah oui, ça peut arriver. Mais alors, ce qui est remarquable dans ce film, c'est le début. J'ai jamais encore vu quelque chose qui rendait aussi bien compte de cela. Ah, c'est-à-dire qu'à la fois, il est timide, on le voit, et en même temps, on entend ce qui se dit. Et le propre du timide, c'est cela. C'est quelqu'un qui est non seulement timide, mais qui est timide d'abord à l'intérieur de lui-même. C'est-à-dire qu'il a constamment, à l'intérieur de lui-même, quelqu'un qui juge et qui est en train de lui dire « là, t'es en train de faire une connerie ». Et tout le début du film, c'est absolument ça. Donc, après, timide, il s'en sort de la timidité.
Un timide sait qu'il devrait parler, qu'il a tort de ne pas le faire, oui. Et en même temps, c'est physique, ça sort pas.
C'est physique et psychique, parce que quand même... Hein, bon, je suis là pour vendre ma camelote. Psychanalystes ne vous diront pas que c'est quelque chose de physique. Ils vous diront que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de soi-même. C'est-à-dire qu'on a une petite voix à l'intérieur de soi, hein, qui dit, et c'est très bien dans le début du film, il dit, voilà ce que je devrais faire, j'y arrive pas. Et puis, après, on arrive à s'en débarrasser quand le monde extérieur, et c'est l'histoire du film, fait en sorte qu'on se rend compte que ce timide, et ben finalement, c'est un grand héros.
Alors justement, pour parler de la timidité, est-ce qu'on est timide ou est-ce qu'on le devient à cause d'un problème, d'un choc psychanalytique?
Ou est-ce qu'on peut prendre des cachets, timide plus, et on devient timide?
Dans le film, vous avez un père qui vous apprend quand même comment on fait pour être timide. Il y a une transmission. Ah si vous l'avez pas vu, moi je l'ai vu dans le film. Vous expliquer le scénario.
C'est-à-dire comportement du père pousse l'enfant à être timide.
Le comportement des parents, de l'entourage en général, permet d'avoir une relation timide au monde. Et dans le film, il y a le personnage d'un père dont on peut pas dire quand même que c'est un grand extraverti, qui apprend à ses enfants comment faire. Et alors justement, ça donne ou bien complètement un enfant timide, ou bien complètement l'inverse, parce qu'il a aussi dans le film un petit frère qui prend le contrepoint.
C'est Patrick Timsit qui joue le rôle du papa.
Mais la timidité peut
peut aller de pair avec, comment dire, être extraverti. Et souvent, les timides sont extravertis pour compenser la timidité. C'est pas dissocié.
C'est pas dissocié. Beaucoup d'acteurs vous diront que ce sont des grands timides. La différence, c'est que un timide est timide quand il s'expose lui-même. C'est-à-dire que c'est plus difficile à un timide de rentrer dans une relation amoureuse parce qu'il s'expose lui-même. Quand il joue un rôle, à ce moment-là, il est moins timide. Et le meilleur conseil qu'on peut donner aux timides, c'est effectivement de différencier quand ils sont eux-mêmes que quand ils jouent un rôle. C'est-à-dire, quand on joue un rôle, quand on va passer un examen, bon, on est d'abord un étudiant. Hein. C'est à partir du moment où on se rend compte qu'on ne met pas complètement sa vie en jeu, mais qu'on passe un examen, qu'effectivement, là, on peut être moins timide. En revanche, quand on est dans une relation qu'on essaye de devenir amoureuse, on se met en jeu. Et là, la timidité, parfois, elle remonte.
Et on parle de timidité maladive. C'est une maladie, la timidité, ou c'est un trait de caractère ?
À partir du moment où ça empêche de vivre, on ne peut pas dire que c'est une maladie, mais c'est au moins quelque chose qu'il faut soigner. Et pour se soigner de la timidité, il faut d'abord comprendre qu'on l'est. C'est-à-dire, il faut d'abord
C'est comme la dépression. Il faut savoir et accepter être en dépression pour se faire soigner. Ceux qui nient la dépression restent.
Vous, par exemple, Nagui, comment vous faites ?
Je ne me soigne pas, mais je devrais.
Non, mais est-ce que ça veut dire que la timidité est forcément liée à un manque de confiance en soi, du coup ? Parce que vous dites que c'est des gens qui se jugent.
Ça va effectivement de pair. Le manque de confiance en soi, c'est quelque chose qui entraîne la timidité, pas forcément. Il y a d'autres façons d'avoir pas confiance en soi. Mais la timidité, c'est quoi ? C'est le rapport au monde qu'on n'arrive pas à mettre en place de façon normale et habituelle.
Alors justement, dans le film, Kev Adams franchit les limites même de la loi, devient carrément hors la loi pour vaincre sa timidité, sans pousser tous les timides à faire ça. Est-ce que passer à une situation extrême, je sais pas, faire du parapente...
Est-ce que tous les timides devraient vendre de la drogue, c'est ça la question ?
Non, ou en tout cas sauter en parachute ou prendre des risques. C'est-à-dire passer à une situation extrême pour d'un coup qu'il y ait un déclic. Parce que c'est comme ça qu'il se soigne dans le film.
C'est comme ça que le monde le soigne. C'est-à-dire, ce qu'il l'a dit d'ailleurs tout à l'heure en présentant le film, c'est pas lui qui décide. Hein. C'est le monde qui décide... Ouais. Que finalement, il est entraîné dans une aventure. Et on se rend compte à ce moment-là qu'un timide, c'est pas un lâche. Au contraire.
Mais il prend quand même la décision lui-même au début du film. C'est lui qui décide d'y aller Amsterdam. Il n'est pas obligé d'y aller.
Par amour,
en tout cas, par attirance pour cette fille.
Il décide d'y aller, mais en même temps, il décide d'y aller pour séduire. Il se rend compte qu'il y a quelque chose à faire pour être avec cette fille.
Deux timides, il peut y avoir un couple de timides. Un garçon timide peut draguer une fille timide, c'est vrai ?
Ça va, vous avez passé un bon week-end ?
Et j'imagine que l'adolescence est une période propice à la timidité ? Où on l'est toute sa vie ?
À la fois, on l'est toute sa vie, mais il y a des périodes qu'on l'est toute sa vie si on ne se soigne pas. Si on ne va pas consulter un psychanalyste, bien évidemment. Mais en même temps, il y a des périodes qui sont...
Donner les horaires du cabinet, tant qu'on y est.
Et les tarifs.
Non, mais on peut aussi aller voir votre film. On comprend comment on peut se soigner.
Allez voir votre film, ça coûte moins cher.
Et surtout, on n'y va qu'une fois, on n'est pas obligé d'y aller 25 fois.
C'est ça. Et on peut également acheter le livre que vous avez signé sur les timides, c'est au seuil. Patrick Avran, ça s'appelle tout simplement Les timides, et vous venez de publier au PUF Les grands parents, une affaire de famille. Ça, c'était pour l'actualité du moment. Merci en tout cas d'être venu.
Merci, c'est intéressant.
On peut l'applaudir en effet. On voit, Daniel, que même si on est timide, certaines situations peuvent nous amener à dépasser nos peurs, à nous révéler, à aller au-delà justement de ce qui était
nécessaire. Le petit salaud ! Quel génie ce monsieur Guy ! Attention, planquez-vous les gars, je viens de voir passer une fulgurance. N'y touchez pas, laissez-la passer, nous imbiber, ressortir de ce studio. Et par la même occasion, si vous pouviez la suivre et sortir, monsieur Guy, ça m'arrangerait. Car non, le côté je suis timide mais je me soigne, ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. Comme ce matin, ce serait une perte de temps que je vous livre une de mes analyses aussi brillantes qu'enchanteresse. Sinon, je vais plutôt prendre un exemple, un cas concret. Celui de tous les collaborateurs avec qui vous travaillez, monsieur Guy. Oui, vos collaborateurs, cette armée de l'ombre qui avance tête baissée, la peur au ventre, le zizi en berne ou le sein flasque. Cette armée privée d'espoir qui ne dit plus « au revoir » mais « adieu » à sa famille chaque matin avant d'aller au boulot.
Certains de vos collaborateurs m'ont raconté comment vous avez essayé de les aider à combattre leur timidité et leur trouille en les soumettant à quelques exercices, notamment celui où, pour les plus jeunes d'entre eux, un soir, vous les avez enfermés dans une cave avec Jean-Luc Lahaye et Michel Fourniret.
Ouais.
Sont-ils ressortis moins timides? Non, ils sont ressortis humiliés. Et l'exercice pour les plus vieux consistant à leur faire traverser le périph' parisien qu'enroulent Samina Seri et Benoît Magimel. Ça n'a pas marché non plus. 4 sur 5 sont morts. Le cinquième qui croyait s'en être sorti et qui au final s'est pris l'orlibus dans le croupion. Il n'est pas en super bon état aujourd'hui. Il marche comme un Oscar Pistorius qui aura perdu ses prothèses. Et il parle comme Michel Houellebecq. Deux états physiques qui rajoutés à la timidité ne donnent pas super confiance en soi. Alors non, monsieur Guy. La peur ne réussit qu'une chose, nous faire pisser dans nos frocs. Une fois encore, mon petit bonhomme, vous avez dit...
N'importe quoi. Merci Daniel Morin. Ouais.
Bravo.
Merci.
C'est la bande originale, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez maintenant. Avec Leïla
Kadourou-Sahib,
Soran
Zawi,
Daniel Morin, Albert Algout, et nos invités Kev Adams et Romain Lévy. Saluons au casting de Gangsterdam également, Hubert Koundé, que vous avez sûrement... Alors, si vous n'arrivez pas à mettre le nom, les visages, La Haine, évidemment, mais il n'a pas fait que ça. Hein. Il a,
non, mais moi, Constant Gardener hein. aussi.
Super, super comédien, ouais. super comédien. Il y a également Patrick Timsit, qui joue le rôle de votre père, Kev, dans ce film.
Tout à fait.
Manu Payet, Mona Valravens, j'espère que je prononce bien, et Alex Hendrix, au casting
et
de ce Rutger film.
Et Rutger Hauer.
Quand ouais. même.
Qui sont tous très marrants quand et même. Très doués.
Tout cela autour de Kev Adams, Manon Azem et Côme Lévin, réalisé par Romain Lévy. L'histoire d'un garçon extrêmement timide qui ne sait pas comment séduire ou plaire ou draguer, pour être clair, une étudiante en fac de droit qui vient de débarquer. La seule solution, ou en tout cas les hasards de la vie font qu'ils vont tomber dans une espèce de réseau de drogue, c'est-à-dire passer, aller acheter de la drogue en Hollande et la faire venir en France. Le dealer, alors le mafieux, le voyou, c'est Manu Payet qui en petite frappe.
Ça lui va bien.
Hein. Ouais, ça lui va bien.
Super.
Ouais.
Très bien.
Aux yeux bleus.
Ouais, avec des lentilles.
Bleus. Ouais, il y a des lentilles bleues. Ouais. Ouais. Je me suis dit, tiens, c'est marrant.
C'est un petit hommage à Henri Fonda dans Elle était toutefois dans l'Ouest. Il D'accord. a été brun aux yeux bleus, donc c'est pour ça qu'on a fait ça.
C'est un petit hommage à John Travolta dans tous ses films. Il a les yeux bleus.
Et donc, il se retrouve dans une espèce de réseau de dealers de drogue, ou même c'est même plus de l'herbe. D'ailleurs, ça devient une espèce de nouvelle matière, drogue. Nouvelle drogue. Nouveaux produits qu'il faut absolument rapatrier en France, et en se disant bah tiens, ils ont des têtes de
qui passent partout.
Ouais, j'ai dit la tête de winner, au sens en tout cas, ça passe partout, de toute façon aucun contrôle de police, même on va même pas leur demander leur ticket de train, s'il est composté ou pas, ça passera, donc on le met dans le sac à dos. Et de là arrivent évidemment que des catastrophes extrêmement drôles, dont une scène culte, on va dire, au milieu de guns, planqués sous un lit ou un canapé, comme les vins, envoie des textos demandant des conseils à Manon Azem, des conseils qu'un garçon peut demander à une fille, voilà, des conseils de vie. Mais c'est extrêmement drôle. C'est pas dans la bande-annonce, je me demandais.
Non, mais c'est de garder un maximum.
Non, mais surtout, moi, je trouve que c'est pas la seule scène qui peut potentiellement, parce que c'est pas nous qui décidons si c'est culte ou pas, c'est le public, c'est la réaction des gens, mais je crois qu'il y a plusieurs scènes qui peuvent potentiellement être cultes, franchement.
Très bien, bah, c'est ce qu'on fait.
Merci, c'est le... Non, mais c'est vrai qu'on a fait sans entrer dans ce genre de compliments qu'on se ferait à nous-mêmes.
Si, allons-y.
Non, mais on a fait l'avant-première parisienne au Rex jeudi dernier.
C'est incroyable.
3000 personnes qui applaudissent, je crois, 4 ou 5 fois pendant le film sur des répliques. On a bien dormi, on était contents. Ça fait trop plaisir.
Ouais, ça, c'est le meilleur test.
Ouais, franchement, c'est, nous, on a fait le film pour pouvoir le partager avec un maximum de monde. Avec
c'était
le
une
grand
soirée,
public.
Que le c'était film incroyable. Marche ou marche pas, c'était une soirée qui restera, je pense, pour nous tous gravée à jamais.
On vous souhaite
d'être avec 3000 personnes dans une salle et d'entendre les gens rire et applaudir en voyant. Enfin, c'était dingue. Moi, j'avais jamais vécu ça, c'était ouf.
Vous avez fait des projections avec, derrière, des discussions, des questions posées par le public. Quel est le genre de questions qui revient fréquemment?
Le genre de questions qui revient fréquemment, c'est « Est-ce que vous pensez que pour les plus jeunes, ce film est pas un peu limite, sachant que ça parle quand même de drogue et que c'est assez violent dans le langage ?» Et ce à quoi on répond, oui, effectivement.
Oui, oui.
C'est pas pour les plus jeunes.
Non, non, il y a un avertissement pour le film. Nous, on le déconseille aux enfants qui sont en dessous de 10 ans.
Ouais, je pense qu'en dessous de 10 ans, il faut éviter.
Ouais, ouais, bien sûr.
En dessous de 10 ans, il faut éviter. Et puis, non, mais enfin, on va pas rappeler à chaque phrase que la drogue, c'est de la merde. Il y a aucun prosélytisme.
Surtout que ça dépend des drogues.
Il y a aucun, c'est ça. Ah, mais moi dans la mouise. Donc, la drogue, c'est de la merde. Chaque fois, je suis obligé de le redire. Il y a aucun prosélytisme sur la drogue, c'est bien, il faut en prendre. C'est simplement une situation extrême d'un garçon normal, exactement, étudiant, propre, qui rentre dans un monde de mafieux, de bandits et de voyous. Lui étant timide, eux étant prêts à tout pour faire leur deal. Et c'est ces deux extrémités-là qui font que le choc fonctionne. Ça s'appelle Gangsterdam, ça sort après mercredi.
Et vous... c'est très drôle. Si vous voulez rire, allez vous amuser, ça sort mercredi. C'est mieux que Ghost in the Shell, c'est mieux que Baby Boss, c'est mieux que La Belle et la Bête, c'est mieux que tous les autres films. Ça s'appelle Gangsterdam, on compte sur vous. Gangsterdam.
29 mars.
Si.
29 mars, à ta face.
C'était là, en fait, à la bande-annonce qui est faite en live. Voici l'humeur de Daniel Morin.
Oui, 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 oui. C'est l'humeur de Daniel Morin sur France.
Oui.
Pourquoi Daniel Morin, le 29 mars.
Non, c'est aujourd'hui.
Il va faire quoi? Voir Gangsterdam.
Ah, mais absolument. Et aujourd'hui, deux jours avant d'aller voir ce chef-d'œuvre, jeudi 27, je suis de mauvais poil. Je vous le dis tout net. Ah, déjà bien. À cause du changement d'heure, ce truc à la con. Oui, je n'ai pas la chance de Mademoiselle Hamzaoui. Non, il me manque une heure de sommeil. Et moi, je suis comme les vaches. Ça perturbe mon cycle. J'ai mon sommeil en entier qui est perturbé. Autre raison de mon courroux. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du fromage.
Ah oui, les vaches, le fromage, je vais enchaîner.
C'est aujourd'hui ?
C'est aujourd'hui, et je déteste le fromage. Ça m'indispose, ça me porte au cœur, ça me fout la gerbe. Aujourd'hui, dans tous les restos du monde, ça va empester. Je m'insurge contre cette journée mondiale. D'ailleurs, à part les restaurateurs, je me demande qui sont les cons qui célèbrent le fromage en ce 29 mars.
Ah, pour moi.
Vive le fromage !
Ah non, pas vous, François. Dites pas que vous célébrez cette ignoble journée mondiale du fromage.
Mais ferme ta gueule ! Le fromage, c'est les sentiments ! Le fromage, c'est l'amour ! Le fromage, c'est la vie ! Bonne fête à tous les fromages ! Le gruyère, le reblochon, le comté de Saint-Moré et le Babybel ! Salut !
Bon débat. Alors, je disais qu'aujourd'hui était une journée noire, mais ce week-end, c'était pas terrible non plus. Pas partout, mais au Salon du Livre, en tout cas, c'était l'enfer. Pourtant, le Salon du Livre, c'est la chance pour les lecteurs de pouvoir approcher leurs auteurs préférés, d'obtenir une signature, une dédicace, un dessin, voire un 06. Alors, il y avait de tout et pour tout le monde. Tous les grands noms étaient là. Il y a même eu Albert Algou qui signait son merveilleux dictionnaire amoureux de Tintin.
Ah, c'est gentil.
Je vous en prie. Alors, bien sûr, certains auteurs sont plus réclamés que d'autres. Certains attirent les foules plus que d'autres. Et ce week-end, la palme de la cohue pour une signature n'a pas échappé à la règle. C'est un grand nom de la littérature qui a créé le plus d'engouement. C'est Nabila, avec son livre intitulé « Trop vite ». Une véritable émeute autour du stand. Mais c'est dingue quand même ça. Déjà Nabila au Salon du Livre, ça fait vanne. Mais en tant qu'auteur, ça fait bizarre qu'il crée l'émeute en plus de sa foule les jetons. Tout ça sous les yeux d'un Julien Lepers qui n'attirait presque personne. Quelle honte.
J'avais oublié. Souhaitons aussi une bonne fête au camembert, à la mimolette, au vieux pané, au maroilles, au cabécou et à la vache qui rit. Salut.
Comment ça me rend nerveux. Allez, je suis à deux doigts de perdre espoir. En parlant de désespoir... Comment ne pas évoquer celui qui doit être celui de François Fillon? Après les costards, ça continue avec les montres. Le pauvre, il s'en sortira jamais. Il va jamais s'en sortir parce que...
Et le Morbier, alors le bon Morbier, oh je l'avais oublié. Prenons aussi le Roquefort, pensons au Saint-Nectaire, à la Fonte d'Ambert, à la Mozzarella et au Cantal.
Et le Bleu d'Auvergne.
J'en étais au moins. Ah oui, Fillon qui galère. Remarquez, il n'y a pas que lui qui galère. Après Emmanuel Macron qui nous a avoué qu'il a connu la dèche, lui aussi à l'époque où, ado, il devait se contenter de 1000 euros par mois, deux fois le RSA d'aujourd'hui, c'est au tour d'Hervé Mariton de chialer. Le député se plaint de son salaire de 5000 euros net mensuel. Je sais pas comment il arrive à s'en sortir. Non, le manque de pognon, ça peut toucher tout le monde, faut pas croire. On croit que Nagui, il est cool avec ses 19 millions hebdomadaires. Détrompez-vous ! Quand on a des frais fixes, faut des rentrées d'argent en conséquence. Faut le payer, son plein de kérosène de Mirage 2000. Ça s'entretient, manoir de 2000 mètres carrés sur un parc de 80 hectares en plein Paris.
T'as raison.
Vous avez idée de ce que ça fait en pension alimentaire, 119 divorces ? Non ! Bon, alors ne jugeons pas. Quand on a un peu de cœur, ben on fait un don, absolument. Oui, oui. Alors, que ce soit pour Hervé Mariton, pour Nagui, envoyez vos chèques à Daniel Morin, 116, avenue du Président Kennedy, Paris 16e. Ayez confiance, je transmettrai.
Et tu parles. Et les apéricubes alors? Oh, les apéricubes, c'est de la merde peut-être? Bien sûr que non, c'est délicieux, c'est sublime. Apéricube nature, apéricube goût jambon, apéricube paprika, apéricube ciboulette, quel délice!
Ça y est, vous avez fini avec votre délire fromager là?
Presque! Mon bon Dany, vous savez ce que dit Nagui quand il arrive dans cette bonne vieille ville de Meaux?
Non.
Faites du bruit!
J'en peux plus, à demain.
Merci. Daniel Morat, il y a nous.
Nagui sur France Inter.
Quelle âme, c'est Romain Lévy.
Ah,
sont
c'était
venus
les meilleures vannes fromagères du monde.
Parler de Gangsterdam. Le film sort ce mercredi 29 mars. Mais Leïla, d'abord dans le brouillon de culture. On va parler de choses.
Absolument, un brouillon de culture pour vous, Kev Adams, c'est vous, Romain Lévy. Et on va essayer d'apprendre à mieux se connaître en sortant de la promo avec un son pour vous d'abord, Kev Adams.
Un rat des plus petits voyait un éléphant des plus gros et raillait le marcher un peu lent de la bête de haut parage qui marchait à gros équipage. Sur l'animal à triple étage, une sultane de renom, son chien, son chat, sa guenon, son perroquet, sa vieille et toute sa maison s'en allaient en pèlerinage.
Un extrait du rat qui n'était pas un éléphant, une fable de La Fontaine, interprétée ici par Fabrice Lucchini. Ouais. Des fables qui font partie des premiers textes avec lesquels vous vous êtes amusé enfant, je crois.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Souvenir familial encore.
J'étais un grand fan de La Fontaine et là où effectivement beaucoup de mes camarades de classe disaient oh, « c'était relou, on a une poésie à apprendre le lendemain », je me rappelle que c'était un des seuls moments que je kiffais parce que j'adorais apprendre les poésies petits et j'adorais particulièrement celle de La Fontaine, tout à fait.
Et je crois que votre grand-père qui se produisait sur des petites places à Tunis, qui oui. jouait de la mandoline,
tout à fait.
Vous a un peu incité à vous donner en représentation, à mettre en scène ces fables de La Fontaine en famille.
Oui, oui, oui. Non, mais il adorait de toute manière tout ce qui est spectacle. Effectivement, j'avais un grand-père qui avant de venir en France et avant d'avoir un vrai travail, j'allais dire, puisqu'il a toujours travaillé toute sa vie. Mais effectivement, sa passion, c'était de se mettre dans des coins, dans la rue, que ce soit à Tunis ou à Paris d'ailleurs, et de jouer de la musique. Il était très, très fort à la mandoline. Donc, il jouait de la musique avec ses amis. Et ce qu'il adorait, c'est quand il y avait un petit attroupement qui se mettait autour et qu'il les regardait, quoi. C'était ça, sa plus grande récompense. Et dès qu'il a vu que moi, que je kiffais un peu le spectacle, dès mon plus jeune âge, il essayait de m'emmener dans ces histoires-là. Donc, dès qu'il y avait un attroupement dans la rue, par exemple, qui voyait des danseurs, des gens qui. Il me poussait au milieu, il me disait bah vas-y toi, montre-leur que tu sais. Fais-leur la fable de La Fontaine. Je dis non, mais là, papy, je crois pas que c'est ça qu'ils ont envie de voir. Donc c'était effectivement très touchant. J'ai un souvenir d'ailleurs très marquant au concert de Danny Briand. C'est très marrant d'ailleurs. On a été au concert de Danny Briand avec mon grand-père et à un moment donné, Danny Briand joue de la guitare sur scène et il dit au public, c'est au Casino de Paris. Je me rappellerai toute ma vie parce que quand j'ai joué au Casino de Paris, j'ai été également très ému en me rappelant de cette scène avec mon grand-père. Danny Briand dit au public, ceux qui veulent venir danser sur scène, n'hésitez pas. Et alors là, mon grand-père m'attrape par là, il me soulève.
Par la taille, il vous soulève, voilà, il vous pose sur scène.
Tout le parterre du Casino de Paris et il m'assoit sur scène et il me dit bah vas-y. Oh, et moi je suis en gênance 6000, j'ai envie de fondre sur scène et je fais un et je descends et voilà. Et effectivement,
un moment de solitude là,
ouais, très gros moment de solitude. Et en même temps, quel souvenir, émouvant, puisque quelques années après j'étais sur cette scène.
Donc on vous a
énorme.
Poussé fort, quelque que part à quoi que tu aller
dises,
sur scène
complètement. Quand tu dises Leïla, tu as raison, la réponse est famille.
Famille, forcément, ouais. Il y a toujours un lien avec dans votre toujours. Itinéraire, ouais, Kev Adams. Ouais. En tout cas, c'est ce qui m'a semblé toujours un rapport.
C'est très juste.
Voilà, et on aurait pu parler de la cousine Rachel, du cousin Michael, et de toute cette petite bande qui revisitait les fables de La Fontaine.
Voilà, on les embrasse.
Et quand vous vous amusez à faire des voix au cinéma de personnages de dessins animés, c'est ce même univers-là, c'est celui de la fable, celui de l'enfant, celui de raconter des histoires.
Ouais, c'est en tout cas c'est ce que j'aime faire, même dans mes spectacles, ce que j'aime faire. Il y a parfois des gens qui me disent « Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que vos propos sont un peu enfantins parfois ?» Et moi, j'aime ce côté enfantin. J'aime les fables de La Fontaine, j'aime la manière d'imager les choses. J'aime donner mon avis ou ma vision, ma perspective de ce que je vis, ouais, via
sans,
quelque chose d'assez...
Sans qu'il y ait de morale, parce que à La Fontaine, il y a la morale quand même. À la
ah bah, re-regardez mes spectacles, Nagui, vous verrez s'il n'y a pas de morale. Bien sûr, bien sûr. N'hésitez pas à regarder.
C'est que Nagui n'a pas de morale.
Non,
donc
mais on sent que Nagui n'a absolument rien vu. Il invite des gens comme ça, à Faux-Falfoin.
Vas-y, regarde-moi dans les yeux, je suis pas venu, toi.
Mais c'est pour ça que ça m'étonne que tu dis ça.
Non, mais il n'y a pas le côté sentencieux.
Faites gaffe, Kev, quand tu demandes à quelqu'un de le regarder dans les yeux, deux secondes après, il l'embrasse.
On s'est déjà embrassé. C'est vrai qu'il est venu me voir.
Non, mais je suis venu.
Voilà.
Mais moral ne veut pas dire moralisateur.
Il faut juger. Voilà, c'est ça.
Exactement. Quand je parle du divorce de mes parents dans le spectacle, mon but n'est pas de condamner tous les parents qui ont divorcé. Mon but est au contraire de faire passer un message à ces gens-là.
C'est dommage, tu devrais.
Et mon but, dès que j'entends sa voix, j'entends un péricube, ça me tue.
Donc, j'en ai dans mes poches.
Donc effectivement, mon but, c'est tout simplement de faire passer un message.
Bien sûr, ouais.
Et je pense que c'est là la morale. Parfois, La Fontaine était très sentencieux parce qu'il vivait dans une autre époque où effectivement, effectivement, il fallait l'être. Il fallait être beaucoup plus grave et beaucoup plus rentre-dedans que ce qu'on peut l'être aujourd'hui. Moi, je fais passer mes messages tranquillement, mais il y a toujours une morale.
Quant à vous, Romain Lévy, pas
oui,
de...
Oui, non, je vous écoute.
Pas de son, mais des mots qui devraient vous mettre l'eau à la bouche alors qu'il est l'heure de passer à table. Si je vous dis pastrami, galet, gelfitfish...
Gelfitfish.
Gefel, tefiche.
La carte farcie, ouais.
Ce sont des plats.
Relis tefiche aussi.
Relis tefiche. Il y a beaucoup de noms. Ce sont des plats de la cuisine ashkénaze. Ouais. Et on peut parler pour vous d'une véritable passion, Romain.
Et oui, une passion pour la bouffe. Alors, vous n'avez pas les images, mais il y a quelque temps, j'avais 10 kilos de plus qui témoignaient de ce que vous étiez en train de dire, mais visuellement.
Alors, c'est quoi le galet?
C'est le patron de Radio France.
Je crois pas que c'est le galet.
Des pieds de veau ou un truc comme
ah,
ça.
Ah oui, non, ça porte un autre nom. Oui, mais j'aime pas tout dans cette cuisine. Le gefilte fish, c'est bon. Le matzo ball soup,
c'est quoi gefilte fish?
Ça, c'est de la carpe farcie. Alors, faut être courageux. C'est-à-dire que c'est une carpe avec dans laquelle on met une farce qu'on mange pendant les fêtes religieuses juives.
C'est dégueulasse.
Alors, il y a des gens qui disent ça. Non, mais pas tout de suite.
Il y a des gens qui te veulent.
Il est en train d'initier un schisme dans la communauté juive.
Pas du tout. Je respecte toute la communauté juive. Je dis simplement que.
Sauf ceux qui mangent.
Poisson qui est la carpe et farcir ça avec de la carpe plus d'autres délires. Bon.
C'est particulier, mais quand t'as grandi avec, tu kiffes. C'est... Quand ta grand-mère t'a menacé de mort si jamais tu kiffes aussi. Donc, je ne l'ai
plus. C'est pourquoi vous le mangez.
C'est pour ça que je mange, même si elle n'est plus de ce monde, je pense qu'elle pourrait revenir d'entre les morts pour me menacer physiquement, se matérialiser sous nos yeux et mettre fin à ma jeune existence.
Et mais qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette cuisine?
Non, mais le pastrami pour moi reste. J'ai une boîte de prod qui s'appelle Pastrami Corp. Pour vous dire.
Les délicatessènes, en règle générale. Les délicatessènes.
Oui, parce que moi, en plus, j'habite le Marais.
C'est toutes les meilleures adresses, en fait.
Oui, oui. Alors, c'est là que je vais faire plaisir à quelques amis. Aller chez Florence Kahn pour manger un des meilleurs pastrami. Aller chez Schwartz. Aller chez Harris Bagel, puisque c'est toujours le même fournisseur.
C'est quoi un pastrami, en somme?
Le pastrami, c'est du veau, c'est du bœuf ou du veau qui a été conservé dans un. Qui a été fumé pendant un certain temps et qui est gardé dans une sorte de marmite et il prend un goût et le fumé qu'il y a derrière avec du paprika.
Si je peux me permettre d'expliquer de manière concise, c'est le pastrami est tout simplement une charcuterie de veau ou de bœuf qui a été longtemps cuite, elle est étouffée de manière à lui donner un goût exceptionnel.
Et dont la taille du sandwich fait que tu ne peux pas le mettre dans ta bouche.
Tout à fait, c'est ça. Tout à fait.
Mais c'est des madeleines de Proust, quoi, en fait. C'est des trucs avec lesquels
non,
tu grandis.
Non, pastrami, mec.
Qui n'écoute pas.
Pastrami de Proust.
Mais en gros, c'est ça.
Et je finis par un cadeau pour chacun d'entre vous. Pour vous, Kev Adams, je vous offre le jeu vidéo À travers le temps de Jean Z aux éditions Seuil en lien avec France Info.
Vous êtes un gamer.
C'est toute l'histoire du jeu vidéo qui est revisitée dans ce bouquin avec les grandes icônes, les grands créateurs de jeux, les jeux qui ont marqué une époque et qui ont donné lieu à un héritage assez fameux. Et c'est très très bien fait, très bien illustré aux éditions du Seuil.
Ça doit être bien, ça. J'ai failli le piquer.
C'est très gentil. Ça a l'air formidable.
Et pour vous, Romain, je vous offre Ghost in the Shell, non pas le film, mais le manga en vidéo, remasterisé, en qualité Blu-ray. Voilà, pour vous, c'est quand même considéré comme un des chefs-d'œuvre de science-fiction.
N'allez pas voir Ghost in the Shell au cinéma, il est déjà en DVD.
Exactement. Je rebondis parfaitement là-dessus en disant que ce film existe déjà en dessin animé et il est beau, il y a beaucoup plus d'aspérité dans le récit du manga que dans le film.
Moi, je suis très heureux.
C'est un film de Mamoru Oshii.
J'ai jamais joué
aux
jeux vidéo de toute ma vie.
Et ben voilà.
Donc je vais découvrir cet univers.
Donc voilà, un DVD pour l'un, une encyclopédie du.
Merci Leïla. Vous êtes toujours à l'affiche avec Rock'n'Roll de Guillaume Canet. Le film Gangsterdam sortira donc ce mercredi 29 mars. Kev Adams, tout là-haut, le film de l'excellent Serge Azanavicius est attendu pour les fêtes de fin d'année.
Tout à fait. Ce sera le 20 décembre.
Et vous aurez le rôle principal, comme dans la série dont vous parliez tout à l'heure.
Qui s'appelle Super High et qui sort en septembre.
Qui sera sur une plateforme Black vidéo,
Pills,
c'est ça ?
Exactement, une plateforme vidéo qui s'appelle Black Pills et qui arrive... La plateforme arrive d'ici un mois et la série Super High, donc, dont j'ai la chance d'être la star et que j'ai écrite avec Édouard Pluvieux, mon complice de toujours, sort en septembre.
Celui avec lequel vous avez fait Ami Public.
Exactement,
ou Soda aussi.
Exactement.
Ouais, c'était bien Ami Public, on en avait
Merci
parlé
beaucoup,
ici, on avait adoré ce film. Romain Gangsterdam, c'est évidemment l'objet de votre concentration.
Et de tous mes stress.
Et de tous vos stress. Est-ce que vous avez déjà commencé à écrire le suivant?
Ouais. Comme on a mis pas mal de temps à faire le deuxième film, j'ai eu un petit battement de 3-4 mois dans lequel j'ai pu dont j'ai profité pour pouvoir écrire une première version de mon prochain film, que j'espère tourner, pas cet été, mais l'été prochain.
Et qui serait dans quel univers ?
Comédie. Une comédie, mais encore très différente. Le premier film est différent du deuxième, et le troisième sera encore très différent. Moi, j'aime bien explorer tous les genres, faire même des films de zombies, j'aime le cinéma en général.
Et au casting, toujours Kev Adams ?
Ça peut arriver.
Ça peut arriver sur un malentendu.
On s'en parle un petit peu.
Il n'en a pas du temps de dingue.
Pourquoi pas?
On s'entend bien, donc voilà.
Bah, pourvu que ça dure. De toute façon, de l'importance des amis, de la fidélité et de la complicité dans votre.
Ouais, et la complicité, la connivence d'esprit, c'est
exactement.
Super.
Exactement. Manon Azem.
Il a trouvé en moi son acteur fétiche.
Ouais, c'est vrai.
Comme Levin, également Patrick Timsit, Manu Payet.
Et en Patrick.
Hubert Koundé et Kev Adams. Donc, c'est dans Gangsterdam. En fait, c'est un Gangsterdam 2 que vous allez faire.
Ce serait trop facile de faire tout de suite.
Des excuses à présenter, Daniel.
Bien évidemment, désolé pour Kev Adams qui pensait être détesté par les auditeurs de France Inter. Eh bien non, Kev, ils ont été bouleversés par les moments d'émotion avec Franck Dubosc, avec le musée Grévin, avec Corneille au Casino de Paris quand vous étiez en larmes. Ils disent qu'ils se seraient crus dans un film des frères Dardenne. Désolé pour les fans de Jackie et Michel qui pensaient renouveler leur abonnement, même passer au système premium quand ils ont su que Nora Mzaoui allait jouer dans une de leurs prochaines productions. Non les gars, je suis désolé, elle est déjà en exclusivité avec Marc Dorcel. Désolé pour toutes les carpes qui se sont senties insultées par Kev Adams. Heureusement que Romain Lévy était là pour nous dire la carpe c'est bon, ça se mange sans faim, surtout quand grand-maman est derrière avec un flingue sur la tente.
Merci les garçons et merdou.
C'était hyper bien résumé.
Mercredi.
Bravo Daniel.
Nous recevons demain donc Yanis Lespère et Pierre Richard dans cette bande originale.